Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Benjamin Haddad. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes chercheur en relations internationales de formation, mais vous êtes aussi député Renaissance de Paris. Vous rentrez tout juste d'un déplacement à Washington. Vous avez rencontré des dizaines de membres du Congrès américain, notamment républicains, pour essayer d'aider à débloquer l'aide à l'Ukraine qui, comme on le sait, et on va y revenir, est actuellement bloquée au Sénat. Après l'Iowa, la semaine dernière, Donald Trump remporte la primaire dans l'État du New Hampshire devant son ancienne ambassadrice à l'ONU qui s'appelle Nikki Haley, alors qu'on a appris que Ron DeSantis avait jeté l'éponge il y a quelques heures. C'est plié. Il sera le candidat des Républicains ou est-ce qu'il reste encore un peu de suspense?
Il semblerait, je crois qu'il est le patron presque incontesté du Parti Républicain, toujours sur le même message, anti-immigration, protectionniste, nationaliste, remettant en cause le rôle international des États-Unis, en particulier en Europe. Au fond, en 2016-2020, on a voulu se faire croire que c'était une parenthèse de l'histoire, que ça allait durer 4 ans et qu'après, on allait revenir à la normale. Là, je crois maintenant qu'il faut qu'on en tire les conséquences. On ne peut pas jouer la sécurité de l'Europe à pile ou face tous les 4 ans.
Et ça, on va y revenir sur la sécurité de l'Europe. Mais vous rentrez des États-Unis, vous avez rencontré des républicains. Sans état d'âme, malgré le Capitole, malgré toutes les affaires, ils sont prêts à caler leur pas derrière ceux de Donald Trump. Sans hésitation, sans état d'âme.
En fait, ils voient surtout que leur base, la base de la primaire du Parti républicain, les militants, sont totalement loyaux à Donald Trump. Ils continuent à le voir comme leur champion. Et ça, ça a des conséquences dès aujourd'hui. Parce qu'avant même de se poser la question de l'élection en novembre, on l'a vu au Congrès, aujourd'hui, l'aide à l'Ukraine, l'aide à Israël sont bloquées. Non pas en fait d'ailleurs à cause des questions de politique étrangère, mais parce qu'elles sont liées à la question de l'immigration sur laquelle il y a une vraie division entre les démocrates et les républicains. Ça rend les institutions politiques américaines dysfonctionnelles dès aujourd'hui avec les conséquences que ça a pour nous.
Donc aucun suspense, c'était la question que je vous posais. Aujourd'hui, il sera le prochain candidat des républicains pour la présidentielle aux États-Unis, malgré son actualité judiciaire. C'est une angoisse pour ses supporters ou pas du tout?
Non, je crois au contraire que ça le renforce chez ses supporters. Ça continue à renforcer l'idée d'un candidat anti-élite contre qui les institutions politiques, médiatiques, judiciaires essaient de se liguer.
Mais il a l'âge qu'il a. Écoutez ce que dit la dernière adversaire qui lui reste, Nikki Haley, qui a tapé, j'allais dire, en dessous de la ceinture, en tout cas là où ça fait mal. Il a 78 ans, Donald Trump, et elle trouve que c'est aussi un homme qui vieillit. On l'écoute.
And he claimed that Joe Biden was going to get us into World War II. I'm assuming he meant World War III. He said that he ran against President Obama. He never ran against President Obama. He says that I'm the one that kept security from the Capitol on January 6th. I was nowhere near the Capitol on January 6th. But Margaret, you don't be surprised if you have someone that's 80 in office. Their mental stability is going to continue to decline. That's just human nature.
Il y avait l'argument judiciaire, il y a désormais l'argument de l'âge d'un homme vieillissant qui parfois aussi fait des gaffes comme celui qu'il appelle Sleepy Joe. Je parle bien sûr du président américain Joe Biden.
Oui, bien sûr. Maintenant, ça devient un duel en fait entre Nikki Haley et Donald Trump. Donc ça va se durcir sur le plan personnel. Il y a aussi des attaques contre Nikki Haley de la part du camp Trump. Ce qui est assez intéressant sur Nikki Haley, c'est qu'en fait, elle est au fond presque la dernière représentante du parti républicain d'avant, c'est-à-dire assez internationaliste, faucon sur les questions internationales. Elle a beaucoup parlé du soutien à l'Ukraine dans sa campagne et c'est l'un des angle d'attaque qu'utilise Donald Trump contre elle.
Le match retour, ils en veulent les Américains ou pas? Le match retour Biden-Trump?
Non, je crois qu'il y a une large majorité d'Américains qui ne souhaitent pas ce match retour, mais il semblerait en effet qu'on s'achemine vers un Biden-Trump 2.
Alors, vous en parliez rapidement. Effectivement, le 6 décembre dernier, le Sénat américain a bloqué une aide de 106 milliards de dollars, comprenant des fonds pour l'Ukraine et pour Israël. Vous rentrez, je le disais, d'un déplacement à Washington. Vous avez rencontré une dizaine de membres du Congrès américain, j'allais dire surtout républicains. Qu'est-ce que vous avez compris des raisons qui amènent les États-Unis à bloquer cette partie de l'enveloppe liée à l'aide à l'Ukraine, notamment?
J'étais avec une coalition de députés de toute l'Europe, en fait, qui viennent en soutien à l'Ukraine. On s'est rendu plusieurs fois à Kiev avec ses parlementaires. Et là, on était à Washington pour rencontrer nos homologues et leur dire que la guerre n'est pas terminée, qu'il faut continuer à rester unis et soudés dans le soutien à l'Ukraine. Et on voit aujourd'hui, en fait, que cette aide, elle est bloquée par un sujet qui est lié, qui est l'immigration. Donc, en fait, c'est un package qui comprend l'aide à l'Ukraine, l'aide à Israël et la question de la sécurité de la frontière sud, l'immigration. Et en fait, aujourd'hui, il y a une vraie division entre démocrates et républicains sur ces questions identitaires liées à l'immigration.
Quel est le rapport avec l'Ukraine?
Alors, parce qu'en fait,
il n'y en a aucun.
C'est juste la politique, politicaille, on va dire, de Washington qui a lié ces deux sujets. Et c'est là qu'on voit en fait que ces clivages partisans américains ont un impact dès aujourd'hui, en fait. Il ne faut même pas attendre novembre, sur la sécurité de l'Europe avec les conséquences.
On va en parler de l'Europe. Je vous assure qu'on va en parler des conséquences pour l'Europe et pour la sécurité européenne. Mais d'abord, sur le blocage de cette aide, on a quand même un président encore des États-Unis qui s'appelle Joe Biden qui a promis de continuer à soutenir les Ukrainiens. Ça veut dire qu'il est plus en capacité de tenir cette promesse.
On verra ce qui se passe dans les prochaines semaines, mais en effet, je crois que arrêter d'aider l'Ukraine, ce serait une catastrophe stratégique pour nous, Européens, en premier lieu. Ça aurait des conséquences sécuritaires, avec le message que ça enverrait à d'autres pays comme la Chine, avec les conséquences que ça pourrait avoir sur la sécurité de nos partenaires de l'Union européenne, des pays baltes, de la Pologne demain, qui pourraient se retrouver menacés par la Russie, mais aussi sur la sécurité énergétique ou alimentaire du monde. On pourrait se retrouver avec une Russie qui contrôle 30% des exportations.
Et ça, ils l'entendent ou pas, quand vous dites ça?
Eh bien, ils l'entendent, même si ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, l'argument qui porte le plus, et on voit là les priorités partagées par les démocrates et les républicains, c'est celui de la Chine. Et au fond, c'est le message de dissuasion qui pourrait être envoyé à la Chine derrière sur un conflit, par exemple, demain à Taïwan. Donc, une fois de plus, là, et ça, c'est un sujet bipartisan aux États-Unis entre démocrates et républicains, la priorité absolue, ce sera la rivalité avec la Chine.
Mais il faudrait peut-être qu'on fasse le ménage chez nous, quand même, parce qu'en Europe, la Hongrie a posé son veto pour une aide européenne de 50 milliards d'euros. Olaf Scholz, ces derniers jours, a regretté que la majorité des pays européens ne contribuent pas suffisamment à l'aide militaire à l'Ukraine. Il faudrait d'abord qu'on arrive à se mettre d'accord. Alors, avant de faire la leçon aux Américains.
Alors, ça fait deux ans que l'Union européenne est unie, soudée et soutient l'Ukraine avec de l'aide économique, de l'aide militaire. Si on met d'ailleurs toute l'aide européenne, c'est plus que les États-Unis.
Pas suffisamment, selon Olaf Scholz.
Mais il faut continuer. Mais encore une fois, d'ailleurs, ce n'est pas un concours entre pays européens. C'est bien que l'Allemagne prenne ses responsabilités. Ça fait des années qu'on demandait à nos partenaires allemands de hausser leurs ambitions sur les questions de défense. La France joue son rôle avec des livraisons d'armes. Vous le savez, que ce soit... on est le premier pays à avoir livré des chars d'assaut, des missiles de longue portée avec nos partenaires britanniques, les Scalp, les fameux canons César qui permettent aussi des victoires symboliques importantes. Mais il faut continuer. En réalité, je crois que la leçon qu'il faut tirer à la fois de ce qui vient des États-Unis et de la guerre sur notre continent, c'est l'urgence du réarmement européen. Réarmement matériel, c'est-à-dire hausser nos ambitions, nous donner les moyens de défendre notre sécurité.
Ça fait deux ans qu'on dit ça.
Mais on le fait. On a eu des vrais succès ces dernières années. Je veux dire, depuis le discours de la Sorbonne du président de la République en 2017, on a eu le plan de relance Covid qui nous a permis pour la première fois d'emprunter au niveau européen, d'investir dans la transition environnementale et numérique, d'aider l'aide à l'Ukraine sous présidence française, où juste après le 24 février, on a pris des mesures historiques sur l'aide militaire avec la Facilité européenne de paix ou les sanctions, la protection de nos frontières avec le pacte asile-migration. Mais en effet, je crois que cette urgence du réarmement, c'est un rôle historique que la France doit porter.
La France, dites-vous, pas que la France toute seule.
La France avec ses partenaires, mais je crois que la France a un rôle de leadership à jouer. Depuis des années, au fond, on dit que peut-être demain, on ne pourra plus compter sur les Américains, qu'on a des crises à nos frontières sud, où on est impliqué au Sahel, le Moyen-Orient, naturellement, ça demande d'augmenter nos moyens de défense. On le fait au niveau national.
Là, le leadership, on a l'air, en vous écoutant, vous voulez vous projeter. Il faudrait qu'elle prenne le leadership.
On le fait déjà depuis des années. Il y a eu, je vous parlais de ces avancées comme le plan de relance Covid ou comme sur les questions migratoires. Là, je crois qu'il y a des projets extrêmement ambitieux. Le fait d'avoir, ce qu'a proposé Thierry Breton, un grand emprunt européen de 100 milliards, pour pouvoir investir dans une industrie de défense autonome. Au fond, il y a aussi un enjeu de réarmement intellectuel. De comprendre qu'on est dans un monde de rapport de force, que les liens commerciaux traditionnels, énergétiques, technologiques sont aujourd'hui utilisés comme des leviers d'influence et de conflit par des pays comme la Chine, la Russie ou peut-être demain les États-Unis sous Donald Trump, et à nous d'en tirer les conclusions.
Ce que j'entends, c'est que vous êtes entré en campagne.
Ah oui, mais ça va être un enjeu majeur.
Ce qu'il se passe plus sérieusement en Ukraine va être un enjeu majeur de ces élections européennes.
Mais bien sûr. Alors, 2024, ça va être une année existentielle pour l'Europe. On a une guerre sur notre continent. On a peut-être demain les États-Unis qui, à nouveau, nous tournent le dos et nous font la guerre économique. On a la pression économique de la Chine, les crises à nos frontières. Est-ce qu'on veut une Europe souveraine qui est capable de défendre ses intérêts et d'assumer sa puissance, ou une Europe divisée, affaiblie, repliée sur elle-même? Ça va être un enjeu majeur de l'élection du 9 juin.
Mais Benjamin Haddad, vous entendez l'actualité et on va en parler dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Quand on parle de l'Ukraine en ce moment, on entend aussi des agriculteurs qui sont très en colère contre ce qui est en train de se passer au niveau européen sur l'Ukraine, avec une importation de produits ukrainiens moins chers que les pays, que ceux des pays européens. On sent qu'il y a une colère qui est en train de monter aussi contre ce qui se passe en Ukraine à ce titre-là. Vous l'entendez, ça ?
Alors, vous avez bien vu que la colère et le désarroi de nos agriculteurs, elle est entendue par le gouvernement. Nos agriculteurs sont les garants de notre souveraineté alimentaire, sont les garants le poumon économique.
Mais sur la partie ukrainienne et sur cette critique-là.
Mais sur l'Ukraine, je voudrais quand même dire quelque chose, parce qu'en effet, il y a une désinformation cynique de la part du Rassemblement national qui nous explique que l'Ukraine demain va rentrer dans l'Union européenne et va mener une concurrence déloyale à nos agriculteurs. L'Ukraine est candidate, je pense qu'elle a vocation à rentrer dans l'Union européenne, mais je voudrais quand même rappeler que ce processus va être très long, mettre 10 ou 15 ans, qu'il va demander des réformes majeures à l'Ukraine, qui va devoir s'aligner sur nos normes, sur nos standards et donc pas faire de concurrence déloyale, et que la France dispose d'un droit de veto à toutes les étapes de ce processus. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a jamais eu la main qui tremble sur ces sujets-là. C'est lui qui avait mis un veto en 2019 sur les pays des Balkans parce que le processus d'adhésion à l'époque ne fonctionnait pas et nous avons eu gain de cause. Donc on sera extrêmement vigilants tout en accompagnant les Ukrainiens dans ce processus.
Merci beaucoup Benjamin Haddad d'avoir été mon invité. On va poursuivre donc sur, vous l'avez compris, sur la colère des agriculteurs avec un mouvement qui s'étend avec 85 départements qui sont d'ores et déjà concernés par ce mouvement de colère. À tout de suite.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.